Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Journée des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui 17 mai. À cette occasion, le commandant des FARDC, force terrestre à Moba dans le Tanganyika, exhorte les jeunes à se désolidariser des groupes armés et à intégrer l'armée pour servir la nation. Vous l'entendrez. Plus de 20 000 personnes ont fui leur village durant les deux dernières semaines du mois d'avril dans le Nord Kivu. Situation consécutive aux affrontements dans plusieurs zones. La protection des civils est gravement compromise dans la région. C'est ce qu'indique OCHA dans son rapport publié hier vendredi. Et puis, le gouverneur du Maniema et l'invité de ce journal, Moussa Kabouankoubi, vient de remettre 11 000 tôles à une dizaine d'écoles des sous-divisions des deux provinces éducationnelles du Maniema. C'est grâce aux frais de solidarité scolaire payés par les parents. Madame, Messieurs, bonjour. Le commandant des FARDC, forces terrestres, dans le territoire de Moba, province du Tanganyika, appelle les jeunes à se désolidariser des groupes armés et à adhérer au sein des FARDC pour servir la nation. Le colonel José Ntumba a lancé cet appel hier vendredi en marge de la commémoration, aujourd'hui 17 mai, de la journée des forces armées de la RDC. Il indique que les jeunes qui sont dans des groupes armés commettent des exactions contre la population. On écoute le colonel José Ntumba dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Nous demandons à la jeunesse de se désolidariser des mouvements insurrectionnels communément appelés les éléments qui se sont d'eux-mêmes constitués en Ouazalendo. Il fallait comprendre ce que c'est Ouazalendo. C'est un patriote. Mais on ne peut pas faire une destruction pragmatique. On se dit patriote, mais on est en train d'ériger les barrières, on est en train de tracasser la population, on est en train d'infliger des taxes qui ne sont pas connues par les services de l'État, on est en train de substituer en force de défense et de sécurité quand on n'a pas cette approbation. Là, je dis non, cette jeunesse doit cesser. Si on a besoin de servir le pays, qu'on vienne dans l'armée. Les portes sont ouvertes, mais on ne peut pas être dans son coin retiré, s'autoproclamer Ouazalendo, s'autoproclamer général, colonel. Non, ça ne passe pas.
Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, les forces de sécurité ont délogé dans la nuit de jeudi à hier vendredi un groupe d'hommes armés identifiés comme des présumés Ouazalendo qui tentaient d'ériger un camp sur la colline dominant la cité de Kasindi, Lubiria. Selon la société civile du groupement de Basongora, leur présence avait semé la panique au sein de la population civile. Cette structure citoyenne salue la promptitude des services de sécurité et appelle la population à redoubler de vigilance en alertant immédiatement les autorités compétentes en cas de mouvement suspect. On écoute à ce sujet Paul Zaidi, premier rapporteur de cette société civile dans le groupement de Basongora. Il est joint par Marc Marofimbo.
Nous saluons les efforts fournis par le comité local de sécurité en ce qui concerne la désinstallation d'un présumé camp de gens qui se réclament des Ouazalendo en provenance de destinations douteuses et inconnues également. Nous remercions vraiment la sensibilité du comité local de sécurité de Kasindi à nos alertes qui ont abouti à la délocalisation et voire même à l'arrestation du chef de file de ces gens qui se réclament de Ouazalendo. Nous avions été alertés du fait qu'ils veulent installer leur camp militaire à l'une des collines qui entourent la cité frontalière de Kasindi. C'est dans ce sens que nous saisissons cette opportunité pour réitérer notre appel à toute la population de Kasindi-Lubiria et ses environs d'être dans cette optique de la vigilance à base communautaire et de signaler tout mouvement suspect au service de sécurité et de l'ordre parce que l'affaire de la paix nous concerne tous.
Nous n'avons pas encore la réaction des FARDC. On reste dans la région, les localités de Mbilinga et de Ngazi, situées dans le groupement de Basso-Amadioué, environ 60 km à l'ouest de Beniville, font face à des menaces sécuritaires constantes. La zone est marquée par la présence des groupes armés qui s'affrontent régulièrement pendant que des bandits armés y imposent leurs lois. Les acteurs de la société civile appellent au renforcement de la présence des FARDC pour assurer la protection de la population. Marc Marofimbo nous fait le point.
Sans lundi, deux groupes armés se sont affrontés dans la localité d'Engazi et ses environs. D'après nos sources sur place, l'un des groupes encore non identifié serait venu du territoire de Lubero avec l'intention de déloger les combattants de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo (UPLC) basé à Engazi. Ces affrontements ont provoqué un nouveau déplacement de la population qui venait en peine de regagner la localité après plus de deux mois passés en Katine et à Mabalako, des centres situés à une dizaine de kilomètres de là. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le chef des villages d'Mbilinga dans l'agglomération de Visiki-Mambombo, toujours dans le même groupement, a été grièvement blessé par balle à son domicile par des hommes armés non identifiés. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité afin de retrouver les auteurs de cette attaque. Face à cette dégradation continue de la situation sécuritaire, la société civile du groupement de Basso Amadiwe plaide pour un renforcement urgent des effectifs militaires et policiers dans la zone. Son président, Justin Paluku Kavalami, souligne que les localités d'Mbilinga et Ngazi, devenues le théâtre d'affrontements entre groupes armés, ne disposent d'aucun élément des forces de sécurité pour assurer la protection des civils. Nos efforts pour obtenir la réaction de l'armée à ce sujet sont restés sans suite. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, plus de 20 000 personnes ont fui leur village pendant les deux dernières semaines du mois d'avril dans le Nord Kivu. C'est ce qui ressort du rapport publié hier vendredi par le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Ce déplacement des populations est l'une des conséquences des affrontements dans plusieurs zones. Les acteurs humanitaires soulignent que la protection des civils est gravement compromise par les violences et par la menace persistante des engins non explosés. L'insécurité persistante et la criminalité violente mettent également en péril la sécurité des travailleurs humanitaires. Avec vous, Jacques-Yves Molima Aouta, faisons le point sur la situation dans les territoires de Rutshuru et de Masisi.
Entre les 18 et les 27 avril, des intenses combats dans 11 villages des groupements de Tongo, Bukombo, Mutanda et Kiondo en chefferie de Buito dans le territoire de Rutshuru ont forcé 1773 ménages, soit plus de 10 600 personnes, à se déplacer vers les cités de Tongo et Nyanzale, jugées plus sûres selon ces rapports. La chefferie de Buisha, toujours dans le Rutshuru, qui connaissait une accalmie relative depuis janvier, a également été touchée par des violences le 25 et 26 avril sur l'axe Bugomba-Katale, près de Rumangabu. Dans les territoires de Masisi, des affrontements dans les groupements Kibabi et Nyamaboko 2 ont provoqué des déplacements massifs des populations. L'ampleur exacte reste à déterminer en raison des difficultés d'accès pour les acteurs humanitaires, précise OCHA. Côté assistance, le rapport signale la distribution de vivres à plus de 20 000 personnes à Kigarame dans le territoire de Nyiragongo, au nord de Goma, et des articles ménagers essentiels à 18 000 déplacés à Luotu dans les territoires de Lubero. Les acteurs humanitaires déplorent la grave menace qui pèse sur la protection des civils, victimes directes des violences et de la menace liée à la présence des engins non explosés. Le 16 avril, un enfant a été tué et trois autres blessés par l'explosion d'un engin à saké. De plus, l'insécurité et la criminalité violente mettent sérieusement en danger la sécurité des travailleurs humanitaires.
Entre-temps, dans la province du Sud Kivu, plusieurs structures de santé dans le territoire de Shabunda éprouvent d'énormes difficultés à se procurer des médicaments. Cette situation résulte de la rupture du pont aérien entre les villes de Goma et Bukavu vers cette région à la suite de la guerre du M23. Intervenant au perchoir de l'Assemblée nationale, le député national Wenda Mukangwa, élu de Shabunda, atteste que cette pénurie occasionne de nombreux décès parmi la population de cette partie de la RDC, alors que la situation ne cesse de s'aggraver. Il appelle le gouvernement national à trouver des solutions urgentes. Suivant un extrait de l'intervention du député Wenda Mukangwa, propos choisi par Ronéline Tibonera.
Il y a un problème au niveau de Shabunda depuis que Bukavu et Goma, qui approvisionnaient ces territoires enclavés totalement, sans route. Et le seul moyen de transport, c'est par avion. Mais maintenant que cette zone qui est approvisionnée est sous occupations de M23 AFC, nous avons des difficultés en médicaments et d'autres intrants. C'est pour cette raison que je recommande, honorable président, à travers vous, d'instruire le ministre de la Santé ainsi que le ministre des Affaires sociales pour qu'une aide humanitaire soit diligentée à Shabunda, honorable président. Si pas cela, beaucoup de maladies sont déjà au niveau de Shabunda, parce que presque toutes les structures sanitaires n'ont plus de médicaments. Il n'y a plus où payer le médicament parce que les médicaments ainsi que les intrants ne provenaient que de Bukavu et de Goma.
Rendons-nous en Ituri. 40 jeunes filles leaders, membres des différentes associations féminines, s'engagent à sensibiliser leurs membres des familles ainsi que leurs communautés et familles au danger de la désinformation et discours de haine qui brisent la cohabitation pacifique dans cette province en proie aux conflits armés. Engagement pris hier vendredi à Bounia à l'issue d'une formation sur la lutte contre la désinformation. Le chef de la division des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO qui a organisé cette rencontre indique que le but est de combattre ce fléau qui pérennise la haine entre les communautés et alimente les conflits en province. Ézéchiel Mouzalia nous fait le point.
Ces jeunes filles, dont des étudiantes, des avocates et même des infirmières, confient n'avoir pas eu au départ des connaissances suffisantes sur les méfaits de la désinformation qui alimente la haine et les conflits armés en Ituri. Sur les réseaux sociaux où elles passent le gros de leur temps, certaines affirment même partager des informations ou des messages dont elles ne connaissent ni les auteurs ni la date des publications et sans vérifier la source. Au sortir de cette sensibilisation, Nana Sombusso jure de ne plus retomber dans cette erreur.
On avait tort auparavant. Quand on recevait le message, ça pour autant discerner, nous aussi on prenait les messages et on divulguait ça. Je vais commencer d'abord dans la famille.
Jean-Toby Okala, chef des sections des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO à Bounia, indique que le but de cette démarche est de combattre la propagation des fausses informations distillées sur les réseaux sociaux.
Parmi les vecteurs de la désinformation, il y a les réseaux sociaux. Les plus gros utilisateurs des réseaux sociaux, ce sont les jeunes. Mais ils le font sans à en mesurer l'impact, les conséquences.
Cette série de sensibilisations va se poursuivre dans des écoles, les institutions universitaires de la ville, mais aussi dans des services publics ou privés de la ville, afin de lutter contre ce fléau qui entretient le cycle des violences en Ituri. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, 240 ports non homologués en RDC doivent être fermés. Le vice-premier ministre et ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, a transmis la liste de tous ces ports à son collègue de l'Intérieur pour le suivi. À Kinshasa, 9 ports sont concernés par cette mesure. C'est entre autres les ports Lomata, Moleka, Jekotra et le port Ngamanzo, situés dans la commune de Maluku, dont le droit de propriété pose problème. Plus de détails avec Askenzi Biataoro.
Selon les informations recueillies sur place, le port Ngamanzo semble être abusivement attribué à l'État. Mais en réalité, sa gestion est partagée entre les individus. D'après des sources sécuritaires, le vrai propriétaire du port, un nommé Roger Mokolot, a toujours réclamé son bien, acquis depuis 1976. La même source affirme qu'en 2016, l'ancien bourgmestre de Maluku, Epiana, aurait ravi le port aux mains de son propriétaire pour confier la gestion à quelques membres de son parti politique. Sur insistance du propriétaire, le parquet général près la cour d'appel de Matete va devoir en 2022 réhabiliter Roger Mokolot dans son droit de propriétaire de ce port, a précisé un agent de service compétent. La même source affirme qu'une année après, c'est-à-dire en 2023, ce port a été récupéré par l'actuel bourgmestre de Maluku. Il est dit qu'à partir de là, jusqu'à ce jour, c'est le bourgmestre de Maluku en fonction qui gère le port de Ngamanzo. Pour l'instant, les drapeaux du pays continuent à flotter à ce port. Un signe qui atteste que le port n'est pas encore fermé. Le traversier, l'accostage de bateaux et pirogues motorisées s'y déroule normalement. Selon certaines indiscrétions, une cérémonie officielle de la fermeture du pont Ngamanzo se prépare au niveau des autorités compétentes.
Dans l'actualité aussi, la route nationale numéro 2 qui va de la province du Maniema jusqu'aux provinces du Sud Kivu, de l'Omami et du Kasaï Oriental est en état de dégradation avancée sur son tronçon compris entre Samba et Lusangai, long de 135 km. La voie est coupée à la suite des pluies qui se sont abattues sur la région la semaine dernière. Cette situation occasionne la rareté et une hausse vertigineuse des denrées alimentaires, signale la société civile locale. Le président de cette structure citoyenne demande l'implication du gouvernement provincial pour l'entretien de cette partie de la route. Abedi Kazimoto Dallas explique, il est joint par Florence Kizalunga.
Désormais, pratiquer les tronçons routiers sans Balusanga et à moto ou à vélo, oublier les véhicules, c'est deviner l'histoire de la pierre qui porte témoignage. Les pluies qui se sont enchaînées la semaine passée ont transformé la nationale numéro 2 en ruisseau. Dommage, celle du vendredi à samedi 10 mai a fini sa pression en divisant la route en trois parties comme celle d'un tableau d'une salle de classe. À 2 km sur les ponts Kiege, c'est coupé. À 3 km sur les caniveaux Kimbuyung et à 9 km sur les ponts Kiangwe. Ce qui occasionne la montée en ébullition des prix des denrées alimentaires devenir rare et une fois les souffrances de la population. Cette route nationale numéro 2, aujourd'hui réduite en sentier, dont l'entretien date du 2014 à 2015 par l'Asbel Ameco, Action Missionnaire Évangélique au Congo, reste envahie des herbes. C'est ainsi que nous implorons à notre gouvernement provincial de planifier plus vite que possible cette partie des routes pour attaquer même les points chauds.
Actualité internationale.
Nous sommes en République du Congo. Enlèvement depuis dimanche dernier à Brazzaville de Lassi Mbwiti, chef du parti d'opposition Les Socialistes Congolais et candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Il a été enlevé par des hommes armés et masqués quelques jours seulement après avoir survécu à une tentative d'assassinat. Le parti Les Socialistes Congolais accuse directement les autorités en place d'être derrière cet enlèvement. Ce n'est pas la première fois, affirme le porte-parole du parti. Le porte-parole précise que le mouvement entend poursuivre la mobilisation non seulement parmi les socialistes mais aussi au sein de la population congolaise et de la diaspora. Face à cet acte, les partis d'opposition à Brazzaville ont publié cette semaine une déclaration commune condamnant fermement l'enlèvement et exigeant la liberté immédiate de Lassi Mbwiti.
L'invité.
Nous recevons le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabwankubi Moïse, vole au secours des écoles en paille et en chaume dans sa province. Il vient de remettre 11 000 tôles aux écoles de 19 sous-divisions des deux provinces éducationnelles du Maniema. C'est grâce aux frais de solidarité scolaire payés par les parents. Moussa Kabwankubi s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabwankubi Moïse, bonjour.
Bonjour Madame Florent.
Quelle a été la politique du gouvernement provincial pour arriver à mobiliser et à canaliser cet argent pour arriver à ces résultats aujourd'hui?
Il faut noter que pour le gouvernement provincial du Maniema, le secteur de l'éducation est parmi les secteurs prioritaires. Parce que nous considérons que l'éducation joue un rôle très important dans le développement de notre province et l'éducation a un impact sur les autres secteurs, qu'il s'agisse du secteur de la santé, qu'il s'agisse du secteur de l'agriculture, des infrastructures. Plus on a une population éduquée, une population instruite, plus on a beaucoup de chances de réaliser les objectifs de développement.
Comment êtes-vous arrivé à avoir l'idée de vous procurer aujourd'hui des tôles pour arriver à doter les écoles de votre province?
Nous avons trouvé une situation dans notre province où les frais scolaires n'étaient pas tout à fait gérés de manière orthodoxe. Alors la mesure que nous avons prise était celle de gérer les fonds irrelatifs de manière transparente en bancarisant par exemple la paye des frais scolaires. C'est à cet égard que dans le cadre des frais de solidarité pour les fonds que nous avons mobilisés pour le premier trimestre et une partie du deuxième trimestre, là nous venons dédoter les écoles de la province d'Imaniema de 11 000 tôles BG 30D. Donc, si ce niveau de mobilisation continue, nous pensons que nous pouvons encore nous retrouver d'ici le mois de juillet pour faire une deuxième opération de distribution. Pour dire que si on a une vision, si on a un peu de volonté, surtout si les deux institutions provinciales, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, partagent la même vision pour le développement de la province, on peut réaliser beaucoup de choses.
C'est 11 000 tôles, ça vous a coûté combien?
11 000 tôles, il faut prendre une moyenne de 13 $ par tôle. Alors faites 11 000 tôles multiplié par 13 $. À cela, vous ajoutez les transports. C'est quand même une fortune, madame.
Monsieur le gouverneur, quel est alors le circuit de traçabilité de ces fonds?
Le circuit de traçabilité, c'est que dès que les parents ont payé les frais, il y a la participation du comité des parents, des syndicalistes, des IPP, jusqu'à l'acheminement de ces fonds au niveau de la banque. Donc, il y a la participation de toutes les parties prenantes, comme on les appelle. Et tout le monde a participé jusqu'à ce que nous puissions arriver à ces résultats-là que nous sommes en train de savourer aujourd'hui.
Vous vous focalisez seulement sur les tôles. Qu'en est-il alors des autres indices tels que la problématique des bancs pupitres dans les écoles?
Les problèmes dans les secteurs de l'éducation, ils sont nombreux. Du côté de l'offre de l'éducation, comme vous l'avez dit, il y a les problèmes des infrastructures scolaires. Mais pour nous, nous avons considéré que nous ne pouvions pas résoudre tous les problèmes au même moment. Donc, nous travaillons de manière méthodique, nous travaillons par étapes. Et parmi tous ces problèmes, du côté de l'offre et de l'éducation, nous pensons que si nous résolvons les problèmes d'école, nous aurons déjà résolu un grand problème du côté de l'offre de l'éducation.
Vous donnez des tôles sans clous, sans planches. Comment est-ce que ces tôles seront fixées?
Alors, comme je l'ai dit, nous faisons participer tout le monde dans cet exercice. C'est comme ça que nous nous sommes mis d'accord même avec les députés provinciaux qui demandent déjà des comptes aux responsables des ETD. Ils leur demandent à juste titre des comptes par rapport à la gestion des rétrocessions que ces dernières reçoivent du gouvernement central. Alors, pour nous, en tant que responsables du gouvernement provincial et représentants du gouvernement central au niveau de la province, nous avons demandé clairement aux responsables des ETD de participer moyennant les frais de rétrocession avec des clous et des planches. C'est une affaire de tout le monde et nous avons même sensibilisé les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'UNICEF, de nous aider de cette manière. Nous pensons que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabankoubi Moïse, merci.
Merci Madame Florence.
Le gouverneur du Maniema s'entretenait avec Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.